Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Alors Vincent, ben commençons par le bilan des cas ici et dans le monde.
Oui, parce que bon, dans le monde, c'est une grosse journée là au Québec. Donc 1918 cas, c'est en baisse là quand même. Oui, la semaine dernière, à la même date, on était presque à 2600. Donc quand même, c'est une tendance qui semble être encourageante. 62 décès par contre, 27 personnes de moins hospitalisées, une personne de plus aux soins intensifs.
Je dirais qu'aujourd'hui, ce sont les chiffres les plus encourageants. Puis en plus, comme c'est un vendredi, donc c'est les chiffres un peu du mercredi, puis on sait que c'est pas une journée de fin de semaine, il y a pas d'explication là, tu sais, qui soit liée au fait qu'il y a eu moins de tests. Donc pour moi, c'est la journée la plus encourageante depuis peut-être avant Noël.
Oui, parce que d'ailleurs, dans la semaine d'habitude, c'est un peu un crescendo là jusqu'au samedi là, et là on est en bas de 2000 aujourd'hui. On verra le chiffre demain qui est souvent assez gros. On pourrait avoir on espère des bonnes surprises parce qu'effectivement, il semble avoir une tendance à la baisse. Montréal, 760 cas quand même aujourd'hui. Montérégie, 310. Légère baisse en Ontario aussi. Bon, en Ontario, on est vraiment plus autour de 3000. Donc 2998 cas. C'est 300 de moins qu'hier. Mais là, par rapport aux semaines, c'est peut-être moins une baisse.
On est quand même dans une tendance à la hausse, c'est ça.
Ouais. Et un record de décès aujourd'hui en Ontario. 100 décès. Bon, il y avait un peu du bac log là-dedans, mon 46 décès survenus plus tôt dans la pandémie. Alors peut-être qu'il en a ajouté un petit peu plus aujourd'hui, mais un bilan qui est le plus élevé jusqu'à maintenant en Ontario.
Et dans le monde, on a franchi un cap symbolique important.
Oui, 2 millions de victimes confirmées de la COVID-19 dans le monde. Donc c'est un chiffre où on est rendu à 2066. Évidemment, ça continue de monter. Le fait notable, c'est que pour avoir le premier million, ça a pris 9 mois. C'est arrivé le 28 septembre dernier. Et pour le deuxième million, ça a repris 4 mois.
Et si on continue les courbes, le prochain million va prendre 2 mois.
Ce serait plus rapide, évidemment.
Parce que chaque pays regarde ça localement. Comme nous, on se dit, ah, ça a monté au printemps, ça a descendu à l'été, ça a remonté, ça a redescendu, là, ça redescend un peu, puis ça. Puis chaque pays a ce portrait-là, parce qu'on regarde tous notre chez nous, notre nombril. Mais quand tu t'additionnes tous les pays, tu le prends d'un point de vue terrestre, Ça va dans juste une direction, ça augmente. Je regardais encore le tableau ce matin, le nombre de cas et le nombre de décès. Je veux dire, la dernière semaine là, qu'on vient de vivre, c'est cette semaine de janvier, c'est la plus grosse semaine en termes de cas, puis c'est la plus grosse semaine en mortalité depuis le début de la pandémie, puis le mois de janvier va être le pire mois, pire que décembre, qui était le pire mois, pire que novembre, qui était pire qu'octobre. Ça va s'en va dans une seule direction. Tu sais, on l'oublie, là, mais c'est la pandémie, du point de vue planétaire, elle est de pire en pire.
Oui, et les pays se sont refermés dépendamment de leur épidémiologie à eux, là, puis avant de réouvrir, puis là, ça repart. Alors, ça a été un balai comme ça un peu partout à travers le monde. Et tu le disais, c'est la pire semaine. On est presque à 14 000 morts par jour en ce moment dans le monde. Évidemment, les États-Unis les plus touchés devant le Brésil, l'Inde, le Royaume-Uni et l'Italie.
C'est ça, il y a 5 pays qui, depuis 3 jours, ont 1 000 morts. Les États-Unis, c'est 4 000 morts et plus. Puis il y en a 4 autres. Le Royaume-Uni.
Le Mexique.
Le Mexique qui a toujours 1 000 morts. L'Inde, la Russie. Le Brésil. Et là aussi.
Ouais, le Brésil d'ailleurs, la situation s'est dégradée.
Mais là,
beaucoup.
Au Brésil, il y a un nouveau variant là.
Oui, absolument.
Et d'ailleurs, moi, je dois dire, hier, on annonçait ça, là, on commençait à s'inquiéter sur le nouveau variant du Brésil. Puis je venais de faire une présentation à LCN sur les retours de vols d'avions qui viennent un peu partout dans le monde. Puis on avait hier midi ou hier en début d'après-midi, là, il y a un vol qui a atterri du Brésil. Puis là, tu te dis, ok, il y a un nouveau variant au Brésil. Moi, à mon avis, les gens qui débarquent de cet avion là, j'exagère pas, mais devrait quasiment être mis dans une vraie quarantaine, là. Être testé au moins 3-4 jours, être testé un à un, tous les matins, tout ça.
Dans un hôtel de l'aéroport, admettons.
Oui, oui. C'est un nouveau variant, c'est plus juste un cas de COVID, là. C'est que là, c'est une méga complication pour notre système de santé. Je trouve qu'on est d'une naïveté. On a ça aux nouvelles, un nouveau variant qui vient du Brésil, puis un avion du Brésil qui vient d'atterrir.
On peut s'imaginer que dans 3 semaines, on va dire, ah ben là, faut arrêter, puis là, il y a des variants qui commencent à pousser partout. Ben, il est trop tard. D'ailleurs, juste pour les chiffres, quand même un élément qui moi m'est revenu au mois de mars dernier, là, Donald Trump, un de ses tweets les plus peut-être disgracieux, il avait tweeté alors qu'on 3 jours avant que tout commence à se fermer là en Amérique du Nord, il avait dit il y a eu 37 000 morts de la grippe l'an dernier aux États-Unis, puis on n'a rien refermé. Pensez donc à ça un peu, là, faisant référence au fait qu'on faisait un grand plat avec la COVID-19. Son chiffre c'était 37 000. Donc, à Donald Trump, il y a un an. Juste te dire, les États-Unis ont franchi à peu près 43 000 morts en 2021. On est le 15 janvier. Donc,
Donc, ils ont plus de cas au 15 janvier, plus de décès au 15 janvier de la COVID.
Que ce que Trump sortait, là, comme gros chiffre.
La pire année de la grippe, là.
Comme, ça varie aux États-Unis à peu près entre 20 000 et 70 000 morts, la grippe, par année. Et là, on est à 43 000, la COVID, après 15 jours de l'année.
Sauf que c'est des comparaisons. C'est pas juste sur le système hospitalier, la grippe, là, tu comprends? Ça cause un peu de débordement en janvier. Mais t'sais, c'est pas...
Juste te dire 4 000 morts par jour, admettons que c'était ce rythme-là à l'année, c'est 1,5 million de morts. Là. Alors, on est vraiment à un rythme qui est absolument extraordinaire aux États-Unis pour les décès. Quoi qu'on voit peut-être arriver un semblant de plateau aussi, ce sera confirmé dans les prochaines semaines.
Alors, ça a été une nouvelle qui a cogné là, ce matin quand Pfizer a annoncé qu'il y aurait des retards dans ses livraisons de vaccins parce qu'il restructure. Évidemment, le but est positif. Le but, c'est d'avoir des plus grosses usines, de produire plus de vaccins. Mais il y a une restructuration d'usines là, qui va retarder de quelques semaines les livraisons de vaccins.
Oui, ça va compliquer les choses pour quelques semaines avant de se s'équilibrer, disons. On sait, il y a eu beaucoup d'inquiétudes quand même ce matin sur cette annonce de Pfizer, des réductions de production importantes en raison de travaux majeurs à l'usine, enfin, de production de vaccins en Belgique. C'est de là d'ailleurs qu'ils arrivent nos vaccins ici au Canada. Pourquoi? Parce qu'on sait que Pfizer là, a changé d'objectif pour 2021, passer d'un peu plus d'un milliard de doses à 2 milliards de doses qu'on souhaite produire. Ce que ça fait, c'est qu'on doit travailler sur les chaînes de montage, les chaînes de production. C'est évidemment compliqué, alors on devra ralentir fortement pendant quelques semaines. Ce que ça donne, et d'ailleurs, Danny Fortin, le major général qui s'occupe de la vaccination, fait le point tantôt, il y aura un impact minimal la semaine prochaine, ensuite quand même important la semaine du 25 janvier, la semaine suivante, et ensuite on va reprendre un peu le rythme qu'on aurait dû avoir.
Mais je comprends que c'est les 4 semaines, c'est du 25 janvier au 20 février à peu près que ça va...
Exact.
Donc là, on va avoir... Mais c'est plate parce que là, on est au cœur de la vaccination de nos résidents aux personnes âgées. On est encore des personnes vulnérables.
Oui, mais il y aura donc un ralentissement pour ce mois. Mais ensuite, vu que les travaux vont se faire et que là, la production va enclencher un peu en deuxième vitesse, ben on aura plus de vaccins que prévu ensuite, du moins une production plus grande, et qu'au 1er mars, on sera revenu à ce qui était prévu, là. Alors, le même nombre de doses qui était prévu, on va l'avoir après un certain moment. Et ensuite, bon, on espère que ça va rentrer plus vite que prévu. On annonçait d'ailleurs là, ces millions de doses qui vont arriver. Alors, ce sera un impact, un délai, mais pour le mieux. D'ailleurs, Justin Trudeau a été rassurant aujourd'hui, disant que c'était un enjeu qui était temporaire, que c'était normal qu'il y ait ce genre de léger retard dans un projet aussi grandiose. Alors, faudra patienter un peu, mais ça arrivera, les doses, et on va enclencher la deuxième vitesse.
Et rapidement, en terminant, 3 nouvelles judiciaires. D'abord, une première qui concerne les 2 affaires d'agression sexuelle qui avaient fait la manchette, évidemment, juste avant Noël.
Oui, c'est tombé, la même journée, le DPCP qui ne portera pas en appel la cause de Éric Salvaille et la cause de Gilbert Rozon. Alors, 2 décisions, on les apprend le même jour, c'est quand même 2 procès différents, là, mais dans le cas d'Éric Salvaille, on dit le DPCP a procédé à une analyse exhaustive de la décision rendue dans le dossier. Ce verdict est basé sur l'appréciation de la crédibilité des témoins, et puisque nous ne relevons aucune erreur de droit, nous annonçons notre décision de ne pas porter en appel. On sait qu'il faut que tu trouves tu peux pas juste dire, je suis pas content du jugement. Il faut que tu trouves des points de droit. Alors, dans ce cas-là, on ne va pas de l'avant. Même chose pour Gilbert Rozon. Dans ce cas-là, c'est que le jugement repose, selon le DPCP, sur l'appréciation de la preuve. Et compte tenu des règles, on ne peut pas en appeler pour une question de fait là-dedans. Alors, on ne peut pas aller de l'avant non plus. Semble que, entre autres, interroger le Patricia Tulane, qui avait dénoncé Rozon, disait qu'elle n'était pas surprise, qu'elle n'attendait plus rien des suites de la décision le mois dernier.
Mais quand on parlait aux experts, je me souviens, dans cette semaine-là, en décembre, il n'y en a pas beaucoup qui voyaient des motifs motifs. À première vue, est-ce qu'ils voyaient des motifs d'appel disponibles pour le DPCP? Par contre, là où ça va en appel, mais en appel à la Cour suprême, c'est dans l'affaire Bissonnette.
Oui, le procureur général du Québec et le DPCP qui décident donc de contester devant la Cour suprême la décision de la Cour d'appel sur la peine d'Alexandre Bissonnette. On se souvient, là, c'est le dossier où on a réduit, en fait, la peine minimale là, d'Alexandre Bissonnette, qui était passé de 40 ans sans libération à 25. On se souvient que le juge, en première instance, avait donné 40 sans que ce soit nécessairement permis pour lui de le faire, là, sachant qu'on allait aller en appel et que ça allait possiblement aller en Cour suprême pour clarifier certaines règles de droit. Ben, c'est ça qu'on fait. Alors, on décide d'aller cogner à la porte de la Cour suprême. Est-ce qu'on va recevoir ce cas-là? Ça reste à voir. Là. Il y aura un délai de plusieurs mois.
Mais est-ce que les experts semblent penser, là, c'est qu'il y a plusieurs causes, je ne sais pas si on est rendu à 3 ou 4, qui touchent cette loi de l'époque Stephen Harper, qui permettait des peines consécutives, donc plusieurs fois 25 ans, et que la Cour suprême risque de les regarder conjointement et d'arriver, d'abord, est-ce que cette loi est constitutionnelle? Deuxièmement, est-ce qu'on peut faire ce que le juge à Québec avait fait initialement, dire ben,
trancher
entre deux, là, 25, mais pas 25 plus 25, 25 plus 10, 25 plus 15, 25 plus 5.
Parce que le fond, il faut que ça se rende en Cour suprême, là.
C'est,
oui, un cas d'espèce important. Est-ce qu'effectivement on va les jumeler, mais il faut que le fond de l'affaire se rende en Cour suprême.
Parce qu'on risque aussi de porter à la Cour suprême le cas de... Bon, on n'est même pas rendu à la Cour d'appel dans ce cas-là, là. Oui, c'est passé à la Cour... Dans le cas de Hugo Fredette. Là.
Oui.
Et lui est encore différent parce que les avocats disent, dans le cas de Bissonnette, il y a eu plus de décès. Donc, on pourrait dire que c'est plus grave, mais c'est le même événement. T'sais, au même endroit, il a posé tous ses gestes au même endroit. Alors que dans le cas de Fredette, même si c'est un décès à chaque endroit, c'est deux événements totalement différent.
C'est pas les mêmes motifs.
Non, pas les mêmes motifs, pas la même réalité, pas le même endroit, pas la même scène, pas la même... Donc, il a assassiné sa conjointe dans des circonstances X. Il est parti avec son petit bonhomme. Il avait besoin d'un véhicule. Il a tué un deuxième monsieur pour son véhicule. Donc, c'est vraiment deux événements distincts. Et ça, on pensait que ça allait contribuer, le pousser en faveur de donner deux fois 25 ans. Et le juge a dit non, mais ça risque de se ramasser en Cour suprême, ça aussi.
Alors, pour ce qui est du dossier de Bissonnette à la communauté musulmane de Québec, là, et son porte-parole au Centre culturel islamique de Québec, M. Ben Abdallah, on était vraiment très heureux d'aller en cour suprême. On parlait carrément de victoire. D'ailleurs, M. Ben Abdallah disait, peu importe la décision de la Cour suprême, au moins on aura le sentiment d'avoir mené ce dossier-là jusqu'au bout.
Voilà.
Alors, il y a une satisfaction et les familles des victimes sont évidemment très, très heureuses de
Mais de toute façon, il faut que ça aille à la Cour suprême. Là. C'est une loi du gouvernement Harper qui était majeure. C'est un changement philosophique pour la justice au Canada parce qu'avant ça, on disait, tu peux pas avoir plus que 25 ans pour la libération conditionnelle.
Peu importe c'est-à-dire, le crime.
Peu importe le crime, le nombre de victimes, le nombre de meurtres, t'en-tu 2, t'en-tu 5, t'en-tu 10. Là, on a changé ça philosophiquement. Et là, ben, dans l'application de ça, il y a des contestations. À mon avis, c'est quelque chose qui est suffisamment profond comme débat de société pour remonter à la Cour suprême. Et finalement, mort atroce d'une fillette de 7 ans à Laval. Je m'étais un peu insurgé la semaine passée contre les délais. Je comprends. Tu sais, je me disais, la police reconnaît que c'est pas une mort accidentelle, là, c'est une mort criminelle. Puis une semaine, 10 jours, 2 semaines après, tu n'avais toujours pas d'arrestation, mais ça s'est fait ce matin.
Oui, on sait, c'est relié à ces tristes événements là, qui ont ébranlé tout le monde au Québec. Le 3 janvier dernier, petite fille de Laval découverte, évidemment, après une mort atroce, là, des brûlures sur 80% de son corps. On sait qu'on avait rencontré plusieurs personnes sans qu'il y ait d'arrestation, mais finalement, la mère de cette fillette de 7 ans qui aurait subi des suffices corporels a été arrêtée par la police de Laval. Donc, accusation de négligence criminelle causant la mort et de voie de fait. Donc, pour ce qui de la négligence criminelle, c'est pour des gestes entre le 3 décembre et le 3 janvier à Laval. Et pour ce qui est des voies de fait, ça remonte jusqu'au 1er juin dernier, jusqu'au 3 janvier. Alors, sur une longue période...
Ça confirme la thèse d'un martyr.
Absolument. Où on a probablement pu analyser des blessures.
Mais les 4 autres adultes présents dans la maison n'ont pas eu conscience, rien vu, savaient rien, n'étaient pas conscients de ça.
On a confirmé pour l'instant qu'il n'y avait pas d'autres arrestations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres toutefois. D'ailleurs, la dame comparaissait là vers 14h30 par visioconférence aujourd'hui.
Merci, Vincent.